Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques minutes, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Puis, dans 30 minutes, avec Guy et Philippe, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce Tumulte numéro 1081. Jean au micro, salut! Nouveauté mis au sec, chanson que personne n'écoute. Au sec, donc extrait de son nouvel album qui s'intitule Chansons ordinaires. Tinari Wen, autre nouveauté extrait du nouvel album. Et juste après, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve.
ديدي انت استنى من تدغ وانت ايام تقلم
ديوان ما تنم دغى ودغى نهزم
ديدي انت استنى من تدغ وانت ايام تقلم
Thank you.
Seiner Sonate mit Urlauten.
Bonjour tumulte, bonjour l'automne, dernier trimestre de l'année, le poème provisoire rejoint l'actualité et la difficile reconnaissance d'un État palestinien. Ou comment la description géologique et lyrique du sol et du sous-sol du Moyen-Orient entrecroise, entremêle son histoire politique. Ce soir, les premières pages d'un poème géopolitique. Le désert n'est jamais vide. Socle cristallin y est partout. Entre le golfe d'Aqaba et la mer, socle à fleurs, rouge, à mi-chemin, perpendiculaire aux plis, et détermine parfois de vrais fossés. Celui qui sépare le Negev de la Judée, méridionale et culminante de la péninsule du Sinaï, se prolonge vers le nord, le long du golfe d'Aqaba, jusque dans le Yémen sud-oriental et au-delà, le manteau de limon crevassé par les ouèdes, cristallins à fleurs, les troncs de tamaris sont noueux et ravinés, le socle ancien constitue la partie méridionale d'aujourd'hui, longue vallée étroite descend. Mais les plateaux sémitiques, coupés par des failles, sur l'itinéraire des caravanes reliant Petra, de plus en plus nombreuses en Samarie, en Galilée. De nos jours, le désert, bordé de marécages aux extrémités, nord et sud plus au sud, péninsule du Sinaï se prolonge vers le nord, le long du golfe d'Aqaba, les troncs de tamaris noueux et ravinés, jusque dans la Libye sud-orientale, le manteau de limon crevassé. et au-delà, à la base de l'escarpement, jusque dans le Néguef sud-oriental, le désert. Jamais vide. Manteau de limon crevassé. Et au-delà du plateau de Transjordanie, à la base de l'escarpement jusqu'à la limite de partage des eaux entre l'Ouadi Araba et la mer morte. Le désert. Jamais vide. Manteau de limon, de maux, séries plissées, étroits sentiers, métamorphiques, gneiss et schiste cristallin, bordés de marécages aux extrémités. Des laves et intrusions ou extrusions de granodiorite et de granit, porphyres et rhyolites et quartz. Le manteau de limon de langue, tronc de tamaris, lit crevassé, vallée rare et la route. Principale, bande de terre dans un pays de désert, égyptien du Sinaï, mauve, rose, violet. Désert de Judée, désert de Qumran près de la mer morte, désert du Néguef, pâle et monochrome, recouvert de l'os. Désert d'Isère, jamais vide. Tronc de tamaris, noueux et raviné, manteau de limon crevassé par les ouèdes, manteau de limon de langue, ressac ressassé. La distance qui sépare l'utopie de la réalité, terres qui ont été confisquées, maisons qui ont été détruites, routes de contournement qui ne mènent, raisons qui ont été écartées, massifs volcaniques au sud, la question qui est déplacée. Le désert n'est jamais vide, socle cristallin y est partout. Sensible socle à fleurs, on est près d'un accord. Le manteau de limon rêvé, manteau de limon de langue, lacune stratigraphique, discordance. Le siège des observateurs de l'ONU, convoi suivant, baril litigieux, cristallin à fleurs, les troncs de tamaris. Noueuse et ravinée, socle ancien, cicatrice claire sur la paroi. La part des fractures et celle des plis. Celle des mouvements d'ensemble de soulèvement. Longue vallée étroite descend de nos jours, le désert. Désert d'Isère, jamais vide, socle cristallin à fleurs entre le golfe d'Aqaba et la mer, perpendiculaire aux plis, détermine parfois de vrais fossés, au sud, délimités, plus au sud, domaine par-delà, demi-steppes ponctuées, quelques buissons isolés, quelques bois, pain d'Alep, désert de Judée surplombe, la mer morte, méridionale et culminante de la péninsule du Sinaï, la mer morte. La suite du désert, troisième mardi d'octobre. À bientôt, tumulte.
strach, ani bílá, ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět, a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans 10 minutes, le journal de Tumulte avec Guy et Philippe, invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Avec Beyrouth, extrait de l'album The Riptide.
Thank you.
Beyrouth toujours. Le premier morceau que l'on vient d'entendre s'appelait East Harlem et celui-ci Goshen.
C'est bientôt la 15e foire au disque et BD à Arras, le dimanche 25 septembre, organisé par Radio PFM.
Une cinquantaine d'exposants proposeront des CD, DVD, vinyles et bandes dessinées
à la salle des Orfèvres et des Tisserands à Arras.
15e foire au disque et BD, salle des Orfèvres et des Tisserands à Arras.
Avenue du Maréchal Leclerc, le dimanche 25 septembre de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.
De mettre de l'ombre dans sa joie, dans sa joie. Elle m'en veut de n'être qu'une ombre qui dort la nuit, se dort le jour. Elle m'en veut d'essuyer ses orages sur des nappes de silence. Thank you. choses brisées sur les lames de mes bateaux. Et ces vœux, je les ai tous oubliés dans les cales de mon ego. Elle m'en veut de mettre de l'eau dans son vin, dans ses yeux. Elle m'en veut de creuser une terre loin de sienne, de la sienne.
Elle m'en veut, c'était Marcel Canche. Le journal de tumulte avec Guy et Philippe. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Cette séquence, nous allons essayer de décrypter la situation aujourd'hui nommée crise de la dette. Dans un premier temps, comment se forme la dette ou les dettes, comment elle s'articule avec la financiarisation et la mondialisation de la société. Dans un second temps, on abordera la question de la crise, quelle crise, singulier ou pluriel. Philippe nous en donnera aussi un éclairage philosophique. On terminera par les suites des événements, peut-être les pronostics et puis peut-être les solutions. Pour commencer donc la formation de la dette, peut-être que c'est le départ des choses. Comment se forme la dette, Laurent ?
Alors si c'est uniquement le point de vue technique que tu demandes, c'est simple, hein, c'est comme pour n'importe quel agent économique et c'est même la même chose pour un ménage. On s'endette à partir du moment où on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc à partir du moment où les dépenses sont supérieures à nos revenus ou à nos recettes. Bon, et c'est aussi vrai pour une entreprise, un ménage et un État. Donc dès lors que les recettes fiscales de l'État sont inférieures aux dépenses qu'il a prévu de faire ou qui ont dérapé, il subit un déficit. Hein, ce déficit, le déficit, c'est vraiment la différence entre les deux flux. Hein, sur une année, si le flux de recettes est inférieur au flux de dépenses, ça s'appelle un déficit.
Bon. Qu'on appelle déficit public quand il s'agit de l'État.
Et qu'on appelle déficit public quand il s'agit de l'État. Bon. Et c'est l'accumulation de ces déficits, si cette situation perdure, c'est-à-dire si d'année en année les recettes sont inférieures aux dépenses, l'empilement des déficits ou l'accumulation des déficits crée la dette. Hein. Ou, une autre manière de le dire, la dette, c'est la somme des déficits enregistrés depuis que l'État a des déficits. Une petite chose, juste donc sur ce point, ça pose pas tellement de problèmes, il me semble, d'intelligibilité, parce qu'il n'y a pas de questions théoriques derrière ou de choses comme ça. Le point peut-être à observer quand même, c'est que parfois on est un petit peu, induit en erreur par la façon de parler des journalistes qui nous parlent par exemple du trou de la Sécu. Bon, quand ils nous parlent du trou de la Sécu, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est la différence entre les recettes de la sécurité sociale pendant une année et les dépenses qu'elle effectue pendant une année. Alors on s'imagine bon un trou dans la caisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce trou n'est possible qu'à partir du moment où la Sécu a déjà trouvé à emprunter. C'est comme pour un ménage. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne si on n'a pas trouvé du crédit, du prêt et si on n'a pas réussi à emprunter. Donc dès lors qu'on constate évidemment un déficit, d'une certaine manière, il a déjà été pas comblé en tant que déficit, mais il a déjà été rendu possible parce que l'agent économique en question a trouvé le moyen de s'endetter.
Oui, on en est aux notions, aux définitions, mais la dette, c'est aussi, enfin, ça peut aussi vouloir dire ce qui est dû. Donc est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un déficit pour qu'il y ait dette? On peut aussi emprunter de l'argent sans être en déficit et avoir une dette, c'est-à-dire avoir de l'argent à rembourser.
C'est tout à fait juste, c'est tout à fait exact. Et donc là, quand on parle comme on a parlé tout à l'heure, on se met tout de suite dans la disposition d'esprit de parler de la dette nette. C'est-à-dire, on fait vraiment...
comme l'Internet, non.
On fait vraiment uniquement attention à l'augmentation nette de l'endettement de l'État. Mais c'est vrai que, alors bon, pour l'État, c'est assez peu fréquent ce genre de situation, mais pour un ménage, effectivement, il est possible que, même en étant excédentaire, il ait trouvé intéressant de s'endetter pour détenir à un moment donné peut-être plus d'argent liquide que ce qu'il en avait au départ. Mais c'est quand même assez peu fréquent aussi, ce genre de situation. Quand les ménages s'endettent, généralement, c'est pas pour le reprêter à quelqu'un d'autre, c'est pour faire une dépense immobilière ou de bagnole. Bon.
Philippe ?
Oui, bah, du coup, la dette, si on part du principe qu'on ne prête qu'aux riches, est-ce que c'est embêtant d'être endetté, quoi ? Et à partir de quel moment ça le devient ? Pour l'État, parce que bon, pour les ménages, on comprend, mais...
Alors... Ben, c'est pas écrit dans les manuels, quoi. C'est-à-dire que c'est pas à partir de quel moment ça devient embêtant. Si tout le monde le savait, finalement, peut-être qu'on éviterait ce genre de situation et peut-être qu'il y aurait jamais de panique financière. On connaîtrait le seuil à partir duquel tout devient déraisonnable. On n'irait pas fricoter avec ce seuil et puis personne n'essaierait d'anticiper ce seuil et de produire une atmosphère panique. Bon, alors, mais quand même, qu'est-ce qui rend une dette à un moment donné plus ou moins insoutenable, avec l'idée que si ça continue, il faudrait que ça cesse, tout en sachant pas exactement quand est-ce qu'il faudrait que ça cesse. Qu'est-ce qui rend la dette insoutenable? C'est que quand on est endetté, on est obligé de payer annuellement un intérêt au prêteur. Et en réalité, le vrai coût de la dette, c'est ça. Et pour l'État, l'unique coût de la dette, c'est ça. C'est la charge d'intérêt annuelle qu'il doit payer à ceux qui lui ont prêté de l'argent. Parce qu'on le verra peut-être tout à l'heure, l'État ne rembourse jamais sa dette en net. Hein, il ne fait que la renouveler. Quand certains crédits viennent à échéance, certains prêts viennent à échéance, bah, il rembourse ses prêteurs et puis réemprunte tout de suite à d'autres. Hein. Donc le montant global de sa dette, il est très rare qu'un État ait à le rembourser. Simplement, ce qu'il doit faire s'il veut pouvoir continuer à s'endetter les années suivantes, c'est de payer régulièrement les intérêts qu'il a promis au prêteur. Et c'est ça le coût de la dette. Et on peut considérer, enfin, j'ai tendance à considérer que quand le coût de la dette commence à avoisiner 4% de la richesse nationale, 5% de la richesse nationale, voire 6% de la richesse nationale, on a dépassé les bornes, parce que ça équivaut à consacrer 30% du budget de l'État à payer uniquement les prêteurs. Et l'État, il a peut-être des missions plus utiles à faire que ça. Bon. Donc c'est plus une question politique, et à un moment donné, l'État ne peut plus assurer ses missions parce que l'essentiel, enfin une grosse partie de l'impôt est consacrée à payer la rente financière.
Alors est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer la situation de la dette d'un point de vue historique ? C'est-à-dire que la question aussi, c'est à qui l'État emprunte ? Est-ce que c'est la même situation, disons, il y a 50 ans, ou par exemple au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, où il a bien fallu emprunter massivement, et la situation n'est pas devenue catastrophique du fait de cet emprunt. Est-ce que la situation est la même aujourd'hui dans le contexte de la financiarisation ?
Bon,
est-ce qu'on emprunte toujours aux mêmes personnes ?
Là, il faudrait faire des réponses dans la dentelle. Mais quand même, grosso modo, historiquement, les États empruntent toujours à ceux qui ont de l'argent et qui peuvent prêter. Donc c'est quand même globalement aux riches et aux possédants que les États empruntent. Alors, évidemment, dans différentes circonstances historiques, ça peut varier. Il y a eu le plan Marshall au sortir de la guerre. Et donc là, l'argent qu'on devait, on le devait aux États-Unis. Essentiellement, c'est des prêts entre États. Ça peut être des prêts entre grandes institutions financières, comme quand le FMI prête à des pays. Mais ça peut aussi être des banques. Dans la situation présente, la plupart des titres de dette publique sont détenus par des établissements bancaires ou des assurances, des établissements d'assurance qui placent comme ça leur énorme trésorerie, ou des fonds de pension qui sont censés assurer la retraite des salariés, surtout dans les pays anglo-saxons. Donc les détenteurs de la dette publique française, voilà, c'est ça, c'est soit des ménages directement, mais très peu. Les ménages détiennent très peu de dette publique directement. Ils les détiennent pour les plus riches indirectement par leur SICAV ou leur fonds commun de placement, hein, qui en ont acheté. Et les ménages eux-mêmes ont des parts de ces sociétés. Et puis pour le reste, c'est les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de pension. C'est ça la plupart du temps. Bon. Donc c'est ce qui a changé, c'est pas tellement la variété des agents qui détiennent la dette publique. Ce qui a changé, je crois, le plus important, c'est que autrefois, quand l'État émettait sa dette, c'était une forme de crédit classique, d'emprunt classique. Il y avait quelqu'un qui lui prêtait pour 10 ans. Et pendant 10 ans, l'État payait un taux d'intérêt. Et puis au bout de 10 ans, la personne était remboursée. La personne ou la banque, très peu les fonds de pension parce que ça n'existait pas beaucoup, mais le prêteur portait sa créance jusqu'au bout, et il attendait les 10 ans avant d'être remboursé. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas beaucoup d'emprunts sur 10 ans, c'était plutôt des emprunts sur 2, 3, enfin même 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'était plus rare d'émettre des dettes à 10 ans parce que, voilà, celui qui avait décidé de prêter, il était scotché avec son prêt jusqu'à la fin, il devait attendre le terme échu pour être remboursé. La grande innovation financière qui s'est faite pendant le Big Bang financier, au tournant des années 80, en France, c'est sous le ministère des Finances de Pierre Bérégovoy que ça s'est fait, 84-86, je sais plus très bien. La grande innovation, ça a été de créer des marchés d'occasion pour les dettes publiques, ce qu'on appelle le marché secondaire, où les agents économiques qui détiennent des dettes peuvent se les revendre. Celui qui ne veut pas la porter jusqu'au bout peut aller en bourse, trouver un nouveau prêteur qui veut détenir la dette à sa place, c'est-à-dire faire la route dans l'autre sens. Hein, le premier prêteur veut retrouver son argent liquide, tandis que l'autre, il veut épargner. Et sa manière d'épargner, bah, c'est de vous racheter le titre de dette que vous aviez sur l'État. Ce qui fait que
tous les jours, toutes les minutes. La dette publique est cotée sur un marché. Elle est cotée sur un marché. Et donc, le prêt qui avait été initialement conclu sur une promesse de remboursement de 1 000 euros, il peut s'échanger 500 euros, il peut s'échanger 800 euros, il peut s'échanger 1 500 euros. Suivant la confiance, la défiance ou l'engouement qu'il y a pour cet État et sa capacité de remboursement. Bon, voilà. Et ça, c'est terrible, parce que ça peut fluctuer avec l'opinion, comme disait l'autre, irrationnelle des marchés, complètement moutonnière, complètement foule, qui panique à certains moments, qui à d'autres moments, au contraire, trouve que le produit est excellemment bon. Et le prix de la dette publique donne une indication du coût auquel peut s'endetter l'État pour ses prochains prêts. Peut-être, si vous voulez, on peut en faire long cours sur ce point-là, mais ce n'est pas inintéressant. C'est que, par exemple, s'il y a une défiance sur la dette publique française, ce qu'à Dieu ne plaise, une promesse de remboursement de l'État de 1 000 euros dans 10 ans, elle peut très bien s'échanger demain sur le marché à 500 euros. Si vous croyez qu'il y a une chance sur deux que l'État français rembourse sa dette, vous n'allez plus acheter une promesse de remboursement de 1 000 euros à 1 000 euros. Vous serez prêt à l'acheter 500 euros. Bon. Mais dans l'intervalle, donc, je te la rachète, Jean, 500 euros. Mm-hmm. Et puis maintenant, c'est moi qui touche les intérêts. Bon. Mais les intérêts, eux, ils n'ont pas varié. L'État, il avait mis sur le bout de papier, tous les ans, je paierais au porteur 50 euros. Alors toi, ça te faisait 50 euros et tu avais prêté 1000, donc ça faisait du 5%. Mais moi, je t'ai racheté ce titre 500 euros. Au passage, toi, tu en as perdu 500. Hein.
Oui.
Il s'est fait avoir.
Et non, mais bon, il a voulu s'en débarrasser à ce moment-là. Il avait besoin d'argent pour payer son vélo.
C'est lui qui paye une bière ce soir, hein. Jean, t'inquiète pas.
Il liquide son épargne. Donc moi, je rachète à Jean sa dette 500 euros et je ne suis pas prêt à payer plus parce que j'ai un gros doute sur la capacité de remboursement de la France. Bon. Ça veut dire que... voilà, j'ai peut-être fait une bonne affaire, j'en sais rien. Pour l'instant, non. Normalement, je n'ai pas fait une bonne affaire. C'est le prix auquel j'estime cette dette. Bon. Mais dans l'intervalle, maintenant, c'est moi qui touche les 50 euros annuels. Et donc, pour moi, le taux d'intérêt, maintenant, il est 10%. Il est de 10%. Puisque c'est 50 sur 500. Donc, quand on parle de l'augmentation des taux d'intérêt sur les dettes publiques, on parle de la baisse du prix de ces dettes publiques sur le marché, de leur dévalorisation. Parce qu'à mesure que les prêteurs ou les prochains porteurs perdent confiance dans cet État, le cours de cette dette chute sur les marchés. Mais comme les intérêts, eux, ils ont été contractualisés une fois pour toutes pour les 10 années, ils restent constants. Et le rapport entre le montant des intérêts et le prix du titre donne le taux d'intérêt, ce qu'on appelle aussi le rendement de la dette. Donc, en gros, quand le prix de la dette est divisé par deux, ça veut dire que le taux d'intérêt perçu par les nouveaux porteurs a été multiplié par deux.
Est-ce que je donne la parole à Guy ?
Alors, je termine. Oui, et vas-y. Ça donne une indication.
Oui, voilà.
Et ça donne une indication très fiable, malheureusement, sur le prix que l'État va devoir payer s'il veut trouver de nouveaux porteurs pour augmenter sa dette. Donc, ce qui se passe sur le marché d'occasion... Ce qui se passe sur le marché d'occasion gouverne les conditions auxquelles il va pouvoir trouver de nouveaux prêteurs. Hein, parce que si vous dites, maintenant j'ai besoin de 1 000 euros de nouveau, mais je fais comme hier, ce sera 50 euros d'intérêt annuel. Il n'y a personne qui viendra lui prêter les 1 000 euros, il préférera rafler quelques actions sur le marché d'occasion plutôt que d'aller prêter à l'État. Donc, il est obligé de s'aligner sur le marché d'occasion. C'est comme si ce qui se passait sur le prix du marché d'occasion des bagnoles dictait les conditions auxquelles Peugeot pouvait vendre des bagnoles neuves. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Il y a une relation. Hein. Mais là, la relation, elle est complètement inversée et complètement univoque dans ce sens-là.
Vas-y.
Laurent, ne te fais pas d'illusions. Hein. Jean, il ne va pas te refiler son truc à 500 euros, hein, s'il l'avait payé 1 000 euros, hein, ça ne te fait pas d'illusion. Donc moi, je voudrais revenir sur le point de départ, comment se forme la dette, la notion de dette quand même, hein, les mots, parce que je trouve qu'ils ont leur importance. Et donc ce qui vient d'être dit, pour moi, le confirme. Hein, bon, qui dit dette, dit dépense. Hein, donc on a parlé d'emprunt, etc. Mais la dette, est-ce que c'est forcément lié à une question de dépense? Est-ce que c'est pas, ça ne peut pas être lié à justement un problème de ressources, de recettes, hein, est-ce qu'on est en dette parce qu'on a trop dépensé, est-ce qu'on n'est pas endetté parce qu'on n'a pas suffisamment recueilli de recettes financières? Et là je pense bien entendu à la dette publique, la dette de l'État. Et donc utiliser ce mot, utiliser ce vocabulaire, dette, dépenses publiques, emprunt, etc., est-ce que finalement ça cache pas la réalité d'une situation qui est que c'est pas un problème de dépenses, c'est pas un problème d'emprunt, c'est un problème de revenus, hein, et l'État bien a limité de manière vraiment très importante ses revenus pour se mettre dans une situation de dette.
Mais, ouais, non mais t'as 100 fois, 1000 fois raison, mais ça c'est une question d'anthropologie politique terrible et qui piège en plus les commentateurs au quotidien, parce que l'idée de dette effectivement est très chargée négativement. Bon, historiquement, hein, avoir un créancier sur ses talons, c'est épouvantable, quoi. C'est absolument épouvantable. Donc la situation de l'endetté, ça a pendant très longtemps été celle du pauvre, et celle du pauvre qui était complètement sous la domination de son prêteur, et qui par l'endettement pouvait même le réduire au servage, hein, d'une certaine façon. Donc devoir de l'argent à quelqu'un, pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas été entendu, et à juste titre, comme le résultat d'un choix délibéré et d'une décision rationnelle. Bon. Et ensuite, alors je passe très vite, ensuite est venu le capitalisme. Et dans le capitalisme, au contraire, enfin pas au contraire, parce que cette dette, cette mauvaise dette dont on parle, elle a toujours existé et elle continue d'exister aujourd'hui. Il y a des gens surendettés qui sont poursuivis par leurs créanciers et auxquels on pompe un argent phénoménal. Mais dans le capitalisme, il est apparu une espèce de dette rationnelle, c'est-à-dire l'endettement qu'un entrepreneur ou un capitaliste juge raisonnable parce que n'ayant pas les fonds, alors même qu'il a un bon projet d'investissement à faire, il est tout à fait prêt à emprunter des fonds, rémunérer un taux d'intérêt 3, 4, 5%, parce qu'il a en vue un projet d'investissement qui lui rapportera 10, 15 ou 16%. Donc, avec le capitalisme, il est apparu l'idée quand même qu'à certains moments, et pour certaines bonnes raisons, on pouvait s'endetter, y compris un ménage, par exemple, qui sait qu'il va avoir une augmentation de revenus de 5% par an pendant 15 ans et qui ne va pas attendre 15 ans pour s'acheter un canapé ou une télé, alors qu'il en aura la jouissance tout de suite s'il l'achetait maintenant. Il peut être rationnel d'anticiper sur ses revenus futurs. Voilà, donc la dette ne devrait plus être chargée négativement quand on sait qu'elle a été le résultat d'une bonne décision. Bon. Or, on ne nous présente plus jamais les choses ainsi, et effectivement, utilisant cette connotation qui est dans le fond inconscient des peuples, quoi, cette connotation négative, évidemment, on blâme. On blâme, et en particulier quand il s'agit de l'État. Alors, si l'État est endetté, c'est forcément qu'il a fauté. Bon. Alors non, si l'État est endetté, c'est parce que ses recettes ne sont pas à la hauteur de ses dépenses, et il y a deux possibilités, soit il dépense trop, soit il n'a pas assez de recettes. Et ça, évidemment, personne ne le présente jamais comme ça. On induit immédiatement l'idée que si l'État est endetté, c'est qu'il a trop dépensé. La situation actuelle, évidemment, n'est pas celle-là. Elle n'est pas celle-là pour la Grèce. Et elle n'est sûrement pas celle-là pour la France. Si la France est très endettée aujourd'hui, ce n'est pas parce que ses dépenses ont dérivé. Hein, depuis 1995, il y a eu une diminution de l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire dépenses de l'État et dépenses de sécurité sociale, de 2 points de PIB. C'est pas énorme, mais il ne faut pas nous faire le portrait de quelque chose qui dérape, ça baisse. Donc ce qui a dérapé, ce sont les recettes fiscales. On a fait de plus en plus de cadeaux, grosso modo, aux riches et aux grandes entreprises, et on a de plus en plus négligé de faire payer l'impôt. Voilà.
Je reviens à la conclusion de ta dernière intervention qui était en fait de décrire le mécanisme par lequel ce qu'on appelle les marchés financiers, donc toi que tu as décrit, hein, le marché des titres des créances, hein, c'est ça,
oui,
hein,
tout à
marché
fait.
De, comment tu l'appelais, d'occasion.
Marché d'occasion, oui.
Marché d'occasion.
Normalement ça s'appelle le marché secondaire, mais ouais, c'est ça.
Donc
c'est
comment ces marchés financiers arrivent à prendre le pas, c'est la maîtrise en fait de l'État, c'est-à-dire c'est plus simplement le fait de faire une dette, c'est le fait que cette dette est comment dire maîtrisée par ces marchés financiers. Alors est-ce que c'est ça ce qu'on appelle le fait que les marchés financiers dictent leurs lois aux États et donc à la politique?
Oui. Mais on y était carrément là, enfin quasiment sur la fin de l'explication, parce que oui, qu'est-ce que ça veut dire que les États sont soumis au marché, ou que les marchés dictent leurs lois aux États, et surtout, enfin qu'est-ce que ça veut dire, comment, par quel canal, comment on y est arrivé? Bon, on y arrive par la force des choses, hein, pas par des énoncés ou des lois. On y arrive par la force des choses parce que la situation qu'on décrivait tout à l'heure, une situation pour une raison X ou Y, bonne ou mauvaise, la foule des prêteurs se met à douter de la capacité de l'État à rembourser, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison. Il se passe ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour réussir à vendre cette dette, il va falloir la brader, et ceux qui voudront l'acheter pourront l'acheter à un prix beaucoup plus bas, étant donné qu'il y a un doute sur la capacité de l'État à rembourser. Donc le prix de la dette baisse, ce qui équivaut, on l'a dit, à une augmentation du taux d'intérêt. Cette augmentation du taux d'intérêt donne l'indication du prix auquel maintenant l'État peut s'endetter. Donc il y a 3 jours, sa dette était rémunérée à 5%, les marchés d'occasion s'effondrent, donc le rendement réel devient de 10%. Si l'État veut placer un nouveau titre de dette parce que ben, voilà, il faut continuer à payer l'éducation, la police, etc., il devra maintenant s'endetter à 10%. Donc, et ça, 10%, il ne peut peut-être pas le faire pendant 5 ans. Surtout s'il doit renouveler les titres parvenus à échéance. Il va devoir rembourser des dettes qui lui coûtaient 5% par an pour le remplacer par des dettes qui vont lui coûter 10% par an. Bon. Donc, en quoi les marchés dominent les États, c'est que le taux d'intérêt qui se forme sur ces marchés, à juste titre ou à mauvais titre, crée les conditions des nouveaux emprunts pour l'État et risque là d'asphyxier l'État. Donc, une simple rumeur, un coup de sifflet des agences de notation qui disent la France, on ne sait pas si ils pourront rembourser. Bon, eh ben, rien qu'une information comme ça crée le plongeon sur les marchés d'occasion, fait monter donc les taux d'intérêt et rend de ce fait même le crédit plus cher pour l'État. Donc on est dans la prophétie autoréalisatrice. Il suffit d'annoncer un truc, si la foule y croit, c'est ce qui advient. Et le taux d'intérêt ayant augmenté pour l'État, du coup, sa dette devient insoutenable. C'est ce qui est arrivé à la Grèce. La Grèce, elle a une dette équivalente à 150% du PIB. Si le taux d'intérêt sur cette dette était de 1%, personne ne parlerait du problème grec. Hein. Il n'y aurait pas de problème. Donc, en quoi c'est un problème? C'est que la défiance étant insinuée pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les taux d'intérêt ont commencé à grimper sur les marchés d'occasion, jusqu'à atteindre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20%. Et évidemment, une fois qu'ils ont atteint 20%, les marchés financiers ont raison. La Grèce ne peut pas, sa dette n'est pas durable. Bon. Donc, c'est comme ça que la finance, d'une certaine manière, domine. Elle ne domine pas comme un acteur. Hein. Mais malheureusement, ce qui se passe va dans son sens. Ce qui se passe est ce qu'elle produit en comportement de foule. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef d'orchestre, pas de chef charismatique, pas de dictateur. Mais les comportements de foule qu'elle produit, d'une certaine façon, va dans son sens. Parce qu'ensuite, vous avez le concert des chiens de garde qui va venir dire « Ah ben oui, ben voilà où on en est maintenant, à cause de la gabegie de l'État grec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la situation? Il faut baisser les dépenses, il faut baisser les retraites, il faut baisser les salaires des fonctionnaires, etc. Il faut tailler dans les programmes sociaux. Bon. Donc, ce n'est pas les marchés financiers qui disent ça, mais c'est tous les acteurs qui grouillent autour, qui en vivent d'une certaine manière. Et puis, l'ensemble de ceux qui manquent profondément d'idées pour dire autre chose. Bon. Donc, à ce moment-là, oui, il y a tout un concert de gens qui mène la stratégie du chaos ou du choc, comme disait Noémie Klein, qui dit c'est le bon moment de faire passer notre message. Hein ? Ah oui, les taux d'intérêt étranglent l'État. Les marchés ont raison quand même. C'est parce que l'État s'est mal conduit. Et si l'État s'est mal conduit, c'est surtout pas qu'il a oublié de prélever l'impôt, c'est qu'il a fait trop de dépenses.
Alors bon, tu as mis en évidence en fait ce qui a permis d'arriver à cette situation-là, à savoir la création d'un marché des créances. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, on en parle pas mal, une transformation de la fonction des banques? On dit que maintenant les banques, elles ne s'occupent des comptes des ménages, ce genre de choses à 30% de leur activité, et que tout le reste, c'est une activité de placement financier.
Oui, bien sûr, l'activité d'investissement, qu'on appelle d'investissement, mais en réalité c'est de placement, tu as bien fait de dire placement. Tu as bien fait de dire de placement. L'activité de placement ou de trading, c'est-à-dire d'aller-retour sur les titres, ou les activités de fusion-acquisition, de restructuration, c'est ça qui fait effectivement le plus gros bénéfice des banques. Donc elles ne se désintéressent pas complètement quand même de l'activité de dépôt et de la gestion des dépôts monétaires des ménages, parce que c'est quand même des ressources gratuites, puisque c'est le taux d'intérêt est nul sur les comptes en banque. Donc l'argent que les banques empruntent, c'est le nôtre. C'est l'argent qu'on a laissé sur nos comptes. Et cet argent ne leur coûte rien. Donc elles ne peuvent pas complètement se désintéresser de cette activité-là. Avec cet argent, elles mènent de l'activité bancaire classique, financement des entreprises. On pourrait dire crédit trésorerie, puis crédit à moyen terme des entreprises. Mais effectivement, le plus gros de ce qu'elles réalisent comme chiffre d'affaires se fait soit sur les marchés, soit sur les opérations de restructuration des entreprises, de fusion-acquisition. Alors, ce n'est pas complètement anodin dans la transformation des marchés eux-mêmes, parce qu'effectivement, les banques, jusqu'à un certain point, participent de cette foule dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est une caisse de résonance, quoi, pour les rumeurs, pour les paniques, pour les états d'esprit, pour les humeurs. Ça a créé aussi ce marché hautement nerveux et spéculatif.
Alors, autre... Oui, Philippe, vas-y.
Oui, mais moi, j'avais deux questions, parce que finalement, s'il y a d'un côté la baisse des impôts, évidemment, ça favorise les riches. Et d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas une double faveur qui est faite, aux plus riches? C'est-à-dire, à la fois ils payent moins d'impôts, donc ils ont plus d'argent, et par là même, par certains mécanismes, certains peuvent prêter aux États, et du coup, de nouveau... gagner de l'autre côté de l'argent sur le dos de l'État qui finalement les a favorisés au départ. Quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'on peut presque appeler ça une forme de double dividende parce que, tu l'as très bien dit, finalement avec quoi les riches prêtent à l'État? Avec l'argent que l'État a négligé de prélever sur eux et donc en ne prélevant pas correctement l'impôt sur ces riches, ils leur ont laissé un excédent d'épargne, d'ailleurs complètement inutile au reste de la société, un excédent d'épargne, et c'est donc cette épargne-là qui devient nécessaire pour l'État, qui va devoir l'emprunter, parce que justement, il n'a pas prélevé l'impôt sur les riches. Bon. Et donc, l'État permet aux riches de recycler l'épargne qu'ils viennent leur offrir, d'une certaine manière, et de le recycler d'une manière... normalement intéressante, jusqu'à la crise des dettes publiques, normalement intéressante, c'est que jusqu'ici, tous les États remboursent à peu près leurs dettes rubis sur l'ongle. Il y a quelques crises de dettes publiques, mais c'est quand même très rare. Les titres de la dette publique sont des titres de bon père de famille. On n'a pas besoin de s'en occuper, c'est très confortable. Normalement, le marché est très profond, le marché d'occasion. Il y a des millions et des millions de titres qui s'échangent tous les jours, donc si on veut revendre demain, on est liquide, quoi. Il suffit de passer un ordre en bourse. Donc voilà ce que les États offraient aux riches, à la fois de l'épargne et une formule d'épargne. intéressante et confortable. Ça, c'est tout à fait juste, je crois qu'on peut... C'est pour ça que, même quand on est keynésien, il ne faut pas être trop gaga sur la dette, quoi. C'est vrai que Keynes préconisait que dans les périodes de crise, l'État s'endette pour relancer l'activité économique, mais il ne faut pas oublier dans les périodes de crise. Bon. Parce que si l'État a une dette structurelle, on crée aussi une rente structurelle qui est payée avec les impôts des concitoyens ou de la classe moyenne. Alors on est dans une situation dingue, quoi, où c'est la classe moyenne qui paye les impôts pour payer la rente financière des plus riches. C'est ça la dette publique. Donc je crois qu'il ne faut pas être non plus un ayatollah et vouloir à tout prix réduire cette dette à zéro, mais il faut quand même être très préoccupé du fait qu'on n'a pas besoin de générer une rente financière comme ça, et il faut retrouver le chemin de l'impôt.
Après une petite pause musicale. Hein.
Quelque part, tout ça, ça peut se résumer dans une formule pour régler le problème des riches. Le problème des riches, c'est s'enrichir. Hein, on fait payer les pauvres. Alors là, bon, j'invente pas, hein, parce que j'ai entendu parler de cette formule. Je ne sais pas si elle est tout à fait exacte, mais c'est, c'est un peu ta conclusion d'un article que tu viens de publier. Donc j'ai entendu parler de ça sur une radio.
Ah non, ça, c'est Galbraith qui dit ça.
Ah bon,
oui,
d'accord.
Oui. Ouais.
Et non, parce que moi, hier matin, j'écoutais une autre radio de PFM et tu étais cité par...
Une radio concurrente.
Ouais, mais une radio d'État. Hein,
service public.
Et donc, oui, pas la radio d'État, une radio de service public. Et donc, une chroniqueuse te citait, mais faisait référence à un article qui se concluait un petit peu de cette manière, quoi. Alors, tout ça pour dire quoi ? Que bon, quand même, ça fait jeu d'argent, quoi. Hein, quand on écoute tout ça, on a vraiment l'impression que finalement, c'est pas une question de dette, hein, au sens où on l'entend dans la vie courante. Hein, c'est bien, on joue avec l'argent. Alors, par contre, moi, la question que je me pose, c'est, bon, on dit toujours, la richesse crée la richesse, mais on a quand même le sentiment, là, qu'on est dans une phase économique où on cherche pas, enfin, qui va pas permettre de développer la richesse. Si on prend la Grèce, en fin de compte, petit à petit, bon, la richesse de la Grèce va forcément diminuer. Donc, ceux qui profitent de cette richesse vont forcément aussi moins s'enrichir. Donc, quelle est leur stratégie, là? Pourquoi adopter cette stratégie? Pourquoi, donc, ne pas contribuer à enrichir encore plus, enfin, la Grèce pour que les plus riches puissent encore plus s'enrichir.
Pourquoi les riches ne sont-ils pas rationnels, ouais. Laurent ?
Non, parce que la première raison, c'est parce qu'ils n'agissent pas en tant que groupe. Ils agissent chacun ils n'agissent pas en tant que groupe. Parfois, ils agissent en tant que groupe, mais sur les marchés financiers, ils agissent individuellement, chacun pour son propre compte en banque ou son compte de résultat. Ce qui fait que quand même, il faut le dire aussi, c'est que ce qui arrive dans une crise financière n'est pas toujours favorable non plus aux riches. Quand les bourses s'effondrent de 20 à 30% sous l'effet de la panique des financiers eux-mêmes, ils se retrouvent quand même avec des moins-values un petit peu terribles qui vont être passées dans les comptes, qui vont donc diminuer leurs profits, qui vont diminuer ensuite leurs dividendes, etc. Bon, donc, il ne faut pas penser qu'au moment d'une crise, c'est favorable aux riches. Je crois que non, au moment d'une crise, c'est favorable à personne. Alors, quelques-uns font de très bonnes affaires. Hein. Si vous rachetez les titres d'une dette publique qui ont été divisés par 4 et que par miracle, cet État est sauvé et finit par rembourser sa dette, alors là, c'est le banco, quoi. Hein, parce que là, si vous rachetez les titres de la dette publique grecque à 200 euros et que dans 5 ans, la Grèce les rembourse 1000 euros, comme c'était marqué sur le bout de papier, bon. Mais ces situations-là ne sont pas les situations majoritaires dans la crise. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de sorte de complot. Et effectivement, ces gens-là auraient plutôt intérêt à la prospérité des pays. Bon, ils auraient intérêt à des pays en croissance, avec des États pour qui les recettes fiscales, grâce à la croissance, rentrent relativement facilement, ce qui dispenserait d'ailleurs d'aller relever l'impôt sur les riches. Bon. Et puis ils aimeraient bien que les entreprises soient prospères. Simplement, cette dictature de la finance sur l'entreprise et sur les États ne produit pas la prospérité. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi comme ça qu'ils sont d'une certaine manière punis, eux aussi. Voilà. À force d'être avides, les entreprises ne se développent pas. À force d'être rapaces, ils mettent les États à genoux. Bon. Et donc, un jour ou l'autre, eux aussi, ils prennent le bouillon. Bon. C'est complètement stupide, mais c'est parce qu'ils n'agissent pas comme un grand planificateur léniniste en se disant « qu'est-ce qu'on devrait faire de bien pour que l'État et la nation prospèrent en sorte que ces riches soient encore plus prospères ?»
Concert anniversaire de Radio PFM.
Venez fêter nos 30 ans de Radio Libre avec un concert de HK et les Saltimbanques.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Mélange de chansons à texte, rap, reggae, musique shabby. Venez faire la fête avec HK et les Saltimbanques sur scène à Arras le mercredi 12 octobre.
C'est toujours la même histoire, depuis que l'homme est l'homme.
La première partie, ce sera avec les groupes locaux L'Esprit Marron et Racine Papa dans des styles Sega et Maloya.
Papa en colère, loqué en Paris, fait la guerre. Autour de mon plaire, il demande bon, j'ai fan la colère.
Concert anniversaire de PFM.
Mercredi 12 octobre à 20h30 au Théâtre d'Arras.
Tarif unique, 8 euros.
Réservation hautement conseillée au 03 21 71 66 16.
Devant mon poste de télé. Je les vois me raconter des salades.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Petit moment avec Sir Stone Moore. Tumulte avec Guy et Philippe. Nous recevons Laurent, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Alors on va bien, on va se pencher un peu sur la notion de crise, parce que c'est un mot qu'on emploie fréquemment, qu'on entend beaucoup, on l'a beaucoup employé. Là, essentiellement pour parler de crise de la dette, est-ce que ce mot de crise est un mot qui recèle des sens cachés, Philippe, d'un point de vue philosophique ?
Oui, bah alors sur la notion de crise, sur le terme de crise, bon, si on regarde le terme, il vient du vocabulaire médical. Hein. Une crise, c'est quand un mal qui était là latent, d'un seul coup, devient paroxystique, etc. Un état. Bon, mais donc c'est une aggravation subite. Bon, alors ça sert effectivement à décrire ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire quand même que s'il y a une aggravation subite, c'est l'aggravation subite d'un mal qui était déjà là. Hein. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, le premier élément de la crise, c'est que une crise ne vient pas comme ça. C'est pas. Alors, elle peut se présenter sous des aspects irrationnels, mais en réalité, bon, elle a quelque chose qui l'explique, etc. La deuxième chose, du coup, c'est qu'on peut dire que le moment de la crise, et ça, évidemment, c'est lié à ce qu'on est en train de voir actuellement dans la crise de la dette, c'est que le moment de la crise, c'est le moment d'une révélation, du coup. Hein, c'est le moment où quelque chose qui était caché ou qui ne se voyait pas, qui était là mais qui ne se voyait pas, apparaît au grand jour, etc. Hein. Donc là, on voit bien, par exemple, que sans doute, effectivement, tous les mécanismes qui ont été mis en place sur les marchés financiers, etc., sont exposés au grand jour, quoi. Et plus personne ne peut échapper à ça. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça fait voir ? Alors, si on regarde ce qu'on voit tous les jours, bon, on voit d'un côté, on nous dit qu'il y a des gens qui manient des sommes absolument faramineuses. Et puis de l'autre, on a d'abord, si on compare ça avec notre fiche de paye ou etc. Bon, ça n'a même plus de sens, quoi. Enfin, il y a une espèce de, c'est le côté insensé, quoi, que ça révèle, quoi. Et puis et qu'en même temps, alors que on manie ces sommes d'un côté, on voit aussi que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que disait Guy tout à l'heure sur le fait que pourquoi on n'enrichit pas les États de manière à ce qu'ils enrichissent les riches, quoi. Donc on aboutit à cette situation absurde où il y a d'un côté l'appauvrissement et puis de l'autre, enfin, un antagonisme, quoi, entre deux parties de la société. Et alors le deuxième élément du mot crise, c'est que le terme lui-même, la crise, c'est la décision. Hein. Et d'ailleurs, évidemment, on voit bien le lien. Hein. S'il y a un État chronique, il va falloir trancher, quoi. Il va falloir trancher d'un côté ou de l'autre, parce que là, on n'est pas dans une situation médicale, etc. C'est-à-dire que, au fond, la crise, un crisis en grec, c'est la décision. Donc, à un moment donné, il faut bien prendre des décisions. Et en même temps, ce qu'on voit du coup, c'est que la crise, ce qui avait l'air d'être des problèmes techniques, hein, et qu'on nous présentait comme des problèmes techniques, le mécanisme des marchés financiers, etc., remonte du coup le fait qu'il y a des décisions politiques. Parce que la décision, c'est toujours politique dans une société. C'est toujours faire un choix entre différents possibles, entre différents intérêts, etc. Et là, du coup, c'est bien à ça qu'on est confronté. C'est-à-dire qu'on a le retour du... à travers la crise, on a le retour de la décision, c'est-à-dire en fait le retour du politique, quoi. Ce qui était une simple question technique devient une question politique de décider. Bon, alors décider, évidemment ça pose plusieurs problèmes, parce que d'une part, d'abord on nous dit la crise, évidemment le terme crise, ça renvoie toujours à l'idée que c'est quelque chose de négatif. Bon. Mais après tout, si la crise est révélatrice d'un mal qui existait déjà, peut-être que c'est aussi une chance. C'est-à-dire peut-être que la crise, ça peut être aussi le moment où on va pouvoir trancher, interrompre et prendre des décisions qui permettront de mettre un terme ou d'inventer une alternative politique, pour le coup, qui permettrait de mettre fin à la situation précédente. Donc là encore, moi, tout simplement, des fois, quand on voit on a l'impression aujourd'hui que les gouvernements ne savent pas quoi faire, quoi. Ils sont là. Bon, alors, est-ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où, pour les Grecs, ça se paye, etc., cher. Hein, mais, pareil, pour les Grecs et pour d'autres, peut-être. Mais en même temps, Peut-être aussi que justement, ceux qui ont mené toutes ces politiques, etc., ils se retrouvent dans une situation d'impuissance et que c'est l'occasion quand même que quelque chose d'autre, puisse, puisse apparaître, quoi. Bon. Et l'autre chose aussi quand même sur cette question, c'est que bon, il y a une fameuse ce que ça montre, quoi, ce qui se révèle dans la crise quand même, c'est que bon, il y a la fameuse formule de Marx dans le manifeste, hein, qui disait que le gouvernement moderne, c'est le conseil d'administration des affaires de la classe bourgeoise. Bon, quand on voit aujourd'hui, finalement, on a l'impression que les ministres et les chefs d'État prennent leurs décisions en fonction de ce qui se passe sur les marchés financiers et sur les intérêts d'un certain nombre de groupes, etc. Bon, là, pour le coup, c'est comme une illustration presque effrayante de cette formule, quoi, enfin, il me semble. Et juste pour finir sur la décision, on ne sait pas forcément décider. Hein, Derrida, un philosophe, disait on ne peut décider que quand il y a de l'indécidable. Bon. C'est-à-dire que, évidemment, on ne sait pas ce qu'il faut décider. Mais n'empêche qu'il va falloir faire des choix, et que dans une société, les choix, ils sont polarisés. C'est ça qu'on voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire que si on favorise certains acteurs, on en défavorise d'autres. Bon, et donc, le choix politique, ici, il est bien. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Hein. On ne sait pas forcément, où on va aller. Mais c'est le propre de la décision, et c'est le propre de la décision politique. Et du coup, ça renvoie à un dernier point, c'est finalement la question de la crise comme crise démocratique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, hein, un régime démocratique, c'est un régime dans lequel il y a un peuple souverain, donc il y a un peuple et son État, puis là, il y a un autre acteur, quoi. Il y a un autre acteur qui est là, hein, qui est ces fameux marchés financiers, bon, qui est une espèce de sujets magiques, là, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Bon, enfin. Et lui devrait décider. Bon, c'est évidemment, ça met à bas la notion même, de souveraineté populaire et de souveraineté démocratique. C'est pour ça que la question de savoir à qui on rembourse, pourquoi faire, et comment finalement, nous, on peut intervenir dans la décision, quoi. Enfin, comment les peuples peuvent intervenir dans la décision, c'est absolument essentiel, quoi.
Laurent, une petite réflexion là-dessus ?
Oui, je ne sais pas si le micro...
Vas-y, c'est bon. Merci.
Oui, sur le point crise-opportunité, on t'entend bien, Philippe, et effectivement, à partir du moment où la crise, comme tu l'as dit, révèle au grand jour la pathologie, c'est l'occasion, ça appelle une action. Ça appelle une action, puisque ça crée tout de même une information nouvelle. Et le dire comme ça, c'est même un petit peu banal. La crise financière, effectivement, déniaise normalement un peu les gens, quand même. Bon, ils voient arriver un truc, et tout d'un coup, quand même, ils finissent par croire que ça pouvait arriver. Bon, c'est pas complètement sûr, hein, mais une fois que c'est là, ils finissent par croire que ça pouvait arriver. Est-ce que ça crée une opportunité de changement ? Oui, on pourrait dire sur le papier, oui. Mais ça fait quand même la dixième là, de crise financière depuis, disons, la crise du peso mexicain en 1982. Donc on commence à avoir des doutes. Et ça dit quand même quelque chose sur le pouvoir de la finance, quoi. Il est énorme. Il est énorme parce que quand même, ils ont fait trembler la planète dans tous les coins, si j'ose dire. La crise asiatique, la crise des valeurs technologiques, et puis ensuite le crash après le 11 septembre, enfin, ça n'a pas arrêté. Ça n'a absolument pas arrêté. Avant, il y avait eu la crise du serpent monétaire européen, quand il y a eu la sortie de la livre du SME. Bon, ça a été tout le temps. Donc on se dit, et tout le temps, sur fond de déréglementation qui n'a cessé de s'approfondir. Donc ça donne une idée quand même du pouvoir de la finance qui est absolument exorbitant, c'est-à-dire que même quand ça tangue et même quand il y a 13 millions de chômeurs en plus dans l'OCDE, eh ben ils arrivent toujours à imposer leur point de vue, c'est-à-dire « Oh là là, touchez pas à nos libertés !» Touchez pas à nos libertés. Parce qu'ils savent très très bien que ce qui fait le job pour eux, c'est la liberté de circulation des capitaux, c'est la liberté de faire des innovations financières, c'est la liberté de mettre en concurrence les territoires, les pays, les travailleurs, les projets d'entreprise. Bon. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux à leurs yeux. certains d'entre eux savent sans doute bien que c'est ça qui fiche aussi le bordel, périodiquement. Mais, bon, peut-être pas au point que le bilan soit négatif pour eux. C'est-à-dire, ils se disent toujours, bon, ok, de temps en temps, ça tangue vraiment. Hein, il y a une moins-value de 25% sur les actions. Il y a quelques États qui rembourseront peut-être pas. Mais au total, on est sans doute gagnant quand même. Parce qu'avec tout ce qu'on pompe dans les périodes où ça va bien, il faut rappeler que c'est ce qu'on disait off, là, mais l'industrie financière faisait 40% des profits de l'ensemble de l'économie des États-Unis, alors qu'elle représentait que 8% de l'emploi. Donc il y a des moments quand même, le jackpot, il ramasse. Donc pour revenir à la question d'opportunité, c'est vrai que ça crée une opportunité, mais ça donne aussi une indication sur les rapports de force gigantesques qui ont été créés au niveau sociopolitique en faveur de la finance, quoi. Parce que ça ne se débloque pas.
Alors il nous reste peu de temps, donc on ne va pas pouvoir dans cette émission-là aborder la dernière partie qui était la question des réponses. Enfin, quelles sont les différentes solutions proposées ou celles qu'on peut imaginer. Par contre, donc on va terminer sur cette question de crise. Bon, on a parlé de crise de la dette, crise financière, crise économique. Bon, la croissance, manifestement, on peut la chercher, crise économique. Alors, est-ce que ce à quoi on a affaire, qui est manifestement une grosse crise, on se dit, bon, ce qu'on est en train de vivre, là, c'est de l'ordre de la crise de 29. On a un peu cette référence-là, quand même. C'est pas un truc qui va passer comme ça. D'ailleurs, ça dure quand même depuis un moment. Donc, c'est une grosse crise. Est-ce que c'est une crise ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est une crise qui tient à la nature de l'organisation, de la manière dont la société s'organise pour se produire et se reproduire, ce qu'on appelle le capitalisme ? Est-ce que c'est une crise naturelle du système capitalisme ? Comme elle se manifeste périodiquement. Et puis, il y a un autre aspect qui fait un peu le caractère un peu nouveau de la situation aussi, c'est le lien avec la crise écologique. Est-ce que c'est de même nature tout ça ? Est-ce que le tout se rassemble sous un seul phénomène finalement ?
En 3 minutes, Jean.
Ah oui, là, on a. Ouais.
Non, il faudra qu'on la reprenne, cette discussion. Mais très rapidement, pour reprendre les mots de Philippe.
On a 2 minutes, voilà.
Pour reprendre les mots de Philippe, je pense, comme Marx ou Keynes, que le capitalisme a une pathologie fondamentale. C'est son problème. D'écoulement du produit à une valeur rentable, ce que Keynes appelle le problème, Marx le problème de la réalisation et Keynes le problème de la demande effective. Bon, et cette pathologie chronique, elle est au cœur du système, on ne peut pas l'évacuer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on dit on change de système parce qu'un système qui est en permanence malade, ça ne vaut pas le coup de le garder. Ça c'est plutôt la position révolutionnaire. Il y a un grand nombre de gens qui disent, le plus raisonnable, ce serait quand même d'essayer de vivre correctement avec cette maladie. On la connaît. Et donc, essayons de faire de cette société capitaliste un truc qui, justement, fonctionnera le moins mal possible avec cette pathologie, sans pouvoir s'en débarrasser. Bon, c'est plutôt le point de vue social-démocrate, keynésien, du compromis. Bon. Durant ces dernières années, on a ignoré complètement ce point de vue-là. Alors, pour des tas de raisons, on ne va pas les faire ici, mais si on oublie qu'au cœur du capitalisme, il y a cette grosse pathologie, et qu'on ne la soigne pas en permanence, parce que c'est des soins quotidiens qu'il faut lui faire, et profonds, et ben voilà ce qu'on a. On a des crises, donc, du capitalisme. C'est bien une crise du système capitaliste. Se déclenche d'une certaine manière, cette fois-ci elle prend la forme du surendettement pour expliquer pourquoi, c'est pas très très compliqué, mais c'est bien une crise du capitalisme, enfin dans le capitalisme, quoi. C'est bien lui qui est malade, c'est pas simplement la finance qui est malade.
Eh bien, je crois que c'est à suivre, à la prochaine.
Dans le cadre des 30 ans de PFM, atelier radioactif, une initiation au montage sonore, découverte et création de mash-up au théâtre d'Arras, mercredi 12 octobre de 18h à 19h30.
Je dis aux Français, à tous les Français, je respecte Monsieur Joe Star.
À mon contact, le lieu propre reste compact. c'est pas pour moi, c'est pas la grande boîte que je grimpe le mal.
Atelier montage et mash-up, mercredi 12 octobre à 18h. C'est gratuit sur inscription auprès du Théâtre d'Arras au 03 21 71 66 16. Plus de renseignements auprès de PFM au 03 21 50 99 99. Fin du magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h et sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.